êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Marie et Valérie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire de Leonard Bernstein aujourd'hui, grand chef d'orchestre américain. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai finalement deux invités. Marie, qui est à mes côtés habituellement, mais qui va devenir mon invitée accompagnée aujourd'hui, de Michael Paoli, chef d'orchestre de l'Harmonie de Bourgoin-Jallieu, que vous connaissez déjà. Bonjour Michael.
Bonjour.
On revient quand même, hein.
Ah bah oui, ça y est, j'y ai pris goût.
Ah ouais, je vous avais dit que c'était une piqûre. Alors Marie et Michael sont passionnés par Bernstein et je vais donc me faire un plaisir de les interviewer sur le sujet. Mais avant toute chose, un petit peu d'histoire sur ce grand maître. Leonard Bernstein, pianiste de talent, chef d'orchestre fougueux et génial, compositeur populaire et émouvant, pédagogue extraordinaire qui va être, jusqu'à sa mort, l'un des personnages les plus en vue de la musique américaine. Bernstein, né à Lawrence, dans le Massachusetts, le 25 août 1918, d'une famille de juifs russes émigrés. Bernstein débute la musique par des cours de piano, puis intègre l'université d'Harvard, d'où il sort diplômé en 1939. Il parachève ses études musicales au Curtis Institute de Philadelphie, auprès d'Isabella Vengerova au piano, Fritz Reiner à la direction d'orchestre et Randall Thompson à l'orchestration. Dès les années 1940, Bernstein devient l'assistant de Serge Koussevitzky au sein de l'Orchestre de Philharmonique de Boston. On vous propose d'écouter dès maintenant, sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes, un extrait de l'ouverture de Candide par le London Symphony Orchestra, composé et dirigé par Leonard Bernstein. We'll be right back. Allez Marie, parlez-nous un petit peu de ce grand monsieur, s'il vous plaît.
Oui, oui, oui. Et quelques mots quand même sur cette ouverture de Candide qui est vraiment très belle et très entraînante. Alors, Leonard Bernstein fait des arrangements musicaux sous le pseudonyme de Lenny Amber. D'ailleurs, souvent, on parle de lui en parlant de Lenny. Chef assistant d'Arthur Rodzinski à l'Orchestre Philharmonique de New York, il est amené le 14 novembre 1943 à remplacer au pied levé le chef d'orchestre Bruno Walter. Ce concert, diffusé par la radio, le rend célèbre du jour au lendemain. Il a 25 ans et devient une star américaine et c'est le début d'une grande carrière de chef d'orchestre. De 1945 à 1948, Bernstein dirige le New York City Center Orchestra où il excelle dans les œuvres de Stravinsky et Gershwin. En 1948, il dirige la symphonie Résurrection de Gustav Mahler lors des cérémonies de la création de l'État d'Israël. En 1953, il est le premier chef américain invité à l'Orchestre symphonique de la Scala de Milan, où il dirige Maria Callas dans Medea de Cherubini. En 1954, il devient célèbre en dirigeant le Symphony Officer Orchestra à la télévision lors de la célèbre série d'émissions Omnibus, qui est une émission télévisée.
Là, on a une petite question directe pour notre chef d'orchestre invité, n'est-ce pas, Michael? Qu'est-ce qui différencie ce monsieur des autres chefs d'orchestre? Pourquoi est-ce qu'il est devenu une star, en fait?
Alors déjà, pour moi, Bernstein, c'est un des 5 plus grands chefs d'orchestre qu'on ait connu. Voilà. Il a révolutionné énormément le monde de la musique pour moi. Il avait un rayonnement musical qui électrisait l'orchestre. Il n'était pas comme ses prédécesseurs qui étaient très rigoureux, très conservateurs. Karajan, par exemple.
Un nom, d'accord. Ah oui, d'accord,
voilà.
Ok.
Qui était là, très conservateur, il menait l'orchestre de main de fer. Et Bernstein, ce n'est pas du tout ça. Lui, il était plus dans la pédagogie, il était drôle, il était proche des musiciens, il était accessible. Il se jouait un petit peu de la hiérarchie, justement, d'un orchestre.
Il était humain, quoi.
Il était humain. D'ailleurs, on disait de lui que c'était un chef humaniste. Voilà. Il était capable, à la fin d'un concert, d'aller embrasser le deuxième violon.
Il connaissait tous les prénoms, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Il était très étonnant pour ça.
Là, le protocole veut qu'on serre la main au premier violon. Il allait au deuxième violon parce qu'il avait fait son boulot. Il allait faire la bise à la deuxième trompette parce qu'il avait bien joué son solo. Voilà.
Ce qui, à moi, me paraît presque normal, mais c'est vrai qu'on a toujours
des hiérarchies. Oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, la première moitié du XXe siècle, les chefs, c'était quasiment des demi-dieux. D'ailleurs, on ne disait pas, je vais voir l'orchestre de Paris jouer la 9e de Beethoven, on dit, j'ai vu Karajan jouer.
Monsieur Karajan,
Bernstein. Voilà, donc cette notion de visuel dans la direction est très importante. Et lui, il a cassé un petit peu ses codes, et puis il est né au bon moment, quoi. Il est né à l'avènement de la télévision. Tout le monde commençait à recevoir le poste de télévision à la maison. Et il s'est servi de ce média pour se faire connaître et puis un petit peu pour désacraliser un petit le côté orchestre symphonique.
Ok, merci pour cette réponse bien développée. Marie, à nous deux.
Alors, il faut dire que Leonard Bernstein est le premier Américain à être nommé directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York. Il en fit l'orchestre digne de ses précédents chefs, Mahler, Walter et Toscanini. Peu, hein, quand même. L'orchestre lui donnera à son départ le titre honorifique de chef lauréat jamais décerné auparavant.
Déjà là, il avait posé ses jalons. Hein. Michael, on dit de Bernstein qu'il est un chef d'orchestre réputé pour son énergie fulgurante, tant aux répétitions qu'aux concerts. Oh, un petit peu comme vous, non?
Oui.
Enfin,
j'aimerais bien comparer à Bernstein, hein, franchement.
Non, mais je veux dire l'énergie, la vivacité, la bonhomie, voilà. Tout
oui,
ça,
oui,
quoi.
Oui.
Cette méthode moderne, comme on disait tout à l'heure.
Il transpire la musique. Voilà. Ce mec-là transpirait la musique et il... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'imposait pas sa musique, il en parlait, il expliquait pourquoi il voulait cette nuance, pourquoi il voulait cette articulation, ce coup d'archet, et évidemment, ça fonctionnait. Les musiciens n'étaient pas habitués, pour eux, ils étaient dirigés, et lui, il voulait arrêter d'infantiliser un petit peu les musiciens d'orchestre, qui sont chacun d'entre eux des très grands musiciens. Dans un orchestre, c'est la masse.
Et qui répondent toujours au chef.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, de temps en temps, il arrêtait carrément de battre la mesure parce qu'il voilà, il laissait les musiciens s'exprimer. Et je pense très sincèrement que cette joie de diriger, dans les répétitions, il faisait tout le temps des blagues. Au concert, enfin, allez voir sur YouTube, quand il dirige, c'est carrément, c'est comique, c'est carrément drôle. Quoi. C'est vraiment drôle.
Et il avait un immense respect pour les solistes. Il essayait toujours de faire en sorte que le soliste ne soit pas couvert par les autres instruments malgré tout. Et les solistes en fait, adoraient...
Il valorisait chaque musicien.
Voilà ce que j'allais dire. En fait, il donnait sa place à chacun dans son
que ce soit le soliste ou la troisième trompette. Voilà.
Parce qu'il n'y a pas de petit musicien dans un orchestre. Tout le monde a sa valeur, tout le monde a son intérêt.
Surtout à ce niveau-là.
Surtout au Philharmonique de Vienne ou au Philharmonique de New York. Voilà.
Et Bernstein représente l'apothéose du judaïsme new-yorkais avec Woody Allen. Son œuvre fait le pont entre la synagogue et Broadway.
Eh bien, moi, je vous propose d'entendre un extrait de Maria West Side Story sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes. Un extrait qui, celui-ci, de nouveau, est dirigé par Monsieur Bernstein.
Maria. Maria.
The most beautiful song I ever heard.
Maria, Maria,
Maria,
Maria.
All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria.
Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. It's soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria, 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 Maria. It's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria. The most beautiful song I ever heard.
Alors, Marie et Michael, parlons un petit peu de ses interprétations, si vous le voulez bien.
Alors, c'est un grand défenseur de la musique américaine de son temps, à l'instar d'Aaron Copland, son idole, sa passion. Bernstein.
C'est dur à dire.
Surtout le soir, comme ça. Bernstein grave environ 400 disques avec son petit burin, dont la moitié avec le Philharmonique de New York. Ses interprétations d'œuvres de Haydn, Beethoven, Brahms, Schumann, Sibelius, Tchaïkovski, Shostakovich, Bruckner et surtout Mahler, auxquels il s'identifie, on en parlera peut-être tout à l'heure, restent encore des références.
Et vous pourrez faire des études de langue, Michael. On est bien parti.
Alors, on va parler rapidement de Mahler. Bernstein s'est toujours pris pour Mahler. Il disait « Mahler, c'est moi ». Comme lui, le chef d'orchestre pour gagner sa vie, il était un juif exilé au milieu des nations, et comme lui, c'était un compositeur d'été.
Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Qui est ce Mahler pour avoir une si grande importance dans la vie de ce grand chef d'orchestre? Qu'en est-il de son admiration pour ce monsieur? Michael, vous pouvez nous répondre?
Alors, Bernstein s'identifie beaucoup à Mahler, je crois. Et Mahler a un héritage romantique qui vient de Beethoven, de Wagner, Berlioz, de Brahms. Et il a voulu moderniser le romantisme. Et innover un nouveau langage musical. Bernstein s'identifiait beaucoup à ça, car lui, il fait pareil, mais dans la direction d'orchestre. Il cherchait la complexité, il cherchait la minutie. Et Mahler était un incompris à son époque. D'ailleurs, la 4e symphonie de Mahler fut sifflée lors de sa création.
Pourquoi ?
Parce qu'il a développé... Il a une écriture contrapuntique. Alors, une écriture contrapuntique, c'est une écriture à contrepoint, c'est-à-dire ce sont deux mélodies qui se jouent en même temps en décalé. Donc des fois, il a développé ce côté atonal de la musique symphonique romantique, contrairement à Schumann et Brahms, qui étaient de la belle, grande musique romantique. Mahler a été un petit peu plus loin, il y avait ce côté atonal, et les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. C'est comme Stravinsky, quand il a fait le Sac du Printemps, il a été sifflé... Il ne se prépare pas à ça, il faut vraiment une initiation,
un
travail de pédagogie. Mais même Bernstein, dans ses répétitions, était obligé d'éduquer un petit peu les musiciens pour leur faire comprendre. Les musiciens étaient un petit peu réticents à Mahler quand ils ont commencé à jouer. Donc il a été obligé d'éduquer et s'est retrouvé là-dedans. Pour lui, Mahler, c'était un visionnaire. Il est peut-être né avec 30 ans d'avance. Mahler, il a composé avec 30 ans d'avance. Et je pense que Bernstein, il aurait pu être un grand chef encore maintenant.
Et c'est vrai que Mahler a certainement souffert de l'antisémitisme d'une partie du public. D'ailleurs, sa musique fut bannie sous le Troisième Reich. Il faudra attendre 1910 pour rencontrer un vrai succès public avec la 8e symphonie à laquelle assistent à Munich les plus grands artistes et écrivains de l'époque, dont Thomas Mann, ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque mort à Venise, la musique était l'adagietto de sa 5e symphonie. Donc, c'est un petit peu... on aurait dit que Visconti avait fait le nécessaire pour remettre la musique de Mahler aussi
à l'ordre du jour,
oui. Mais très belle symphonie. Bernstein aura consacré une grande partie de sa vie à faire découvrir Mahler aux Américains et au monde. À peine joué à son époque, 1960, si ce n'est par Bruno Walter, c'est Bernstein qui a entrepris la première intégrale au disque de l'œuvre entière. Comme chef d'orchestre, Bernstein a fait connaître la musique contemporaine en créant des œuvres de Ives, de Poulenc, Messiaen, Copland, Enze, Barber. Il sera le créateur de Turangalila, de la symphonie de Messiaen en 1953.
D'accord. Ah, moi, je constate que c'est une torture dans cette émission pour les Languins. Je vous fais des misères à tous, là. C'est terrible.
Moi, je te laisserai là.
On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, tout le monde nous pardonne. Hein. Merci pour Color FM. Nous allons écouter donc un extrait toujours dirigé par Leonard Bernstein de l'Adagietto de la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler par Vienna Philharmonique. Ah, bah ça y est, je m'y mets. Philharmonique Orchestra.
Ça, c'est pas dur. Hein.
Bah c'est vrai, mais c'est pour ça que je me plante. Ça, c'est Michael, il est content, il a envoyé.
Exactement.
Allez, ça roule, on envoie, on écoute. Sur Couleur FM 97.1. Il est dit que la gloire est venue en 1957 lorsque Leonard Bernstein compose la comédie musicale West Side Story pour Broadway, dont a été tiré le film aux 10 Oscars, sorti en 1961.
Et sans la renier, Bernstein ne la considère pourtant pas comme son œuvre majeure, bien qu'il en ait toujours reconnu la difficulté.
Alors, Michael, vous pouvez nous parler un petit peu de cette comédie musicale. En quoi elle est difficile et pourquoi ce succès à l'époque ?
Alors, pourquoi ce succès d'abord ? Eh bien, je pense parce que c'était le bon moment pour la faire, tout simplement. On est juste après, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a la profusion des radios, des télés, de nouvelles esthétiques. On entend beaucoup de jazz sur les ondes. On entend beaucoup de musique du monde. Et il a été très intelligent parce qu'il a gardé des traceurs de ce qu'on fait dans un opéra, à savoir dans West Side Story, il y a la noirceur du thème, par exemple, qui est un thème assez pas très gay.
Roméo et Juliette.
Voilà, voilà. Une musique sophistiquée, parce que l'écriture, je vous raconte pas. Hein, j'ai eu l'occasion de la jouer une fois, moi, en symphonique, mais je peux vous dire que c'est assez raide. Et puis, il a ces traceurs-là, et il a rajouté justement ce qu'on écoute à l'époque, c'est-à-dire le jazz, la musique afro-cubaine, et un truc très important, c'est qu'il a mis en fil rouge les difficultés que rencontraient les Américains à ce moment-là, c'est-à-dire le racisme entre les différentes communautés, et ça a fonctionné tout de suite.
Il a été actuel, en fait.
Il a été très actuel.
Il a mis son savoir au profit de la mise en scène des choses, quoi. Il a mis en scène, en fait.
Voilà, et puis il a mélangé un petit peu les genres, il a un petit peu métissé tout ça. Il a gardé du chant lyrique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans des comédies musicales qu'on peut entendre maintenant. On n'entend pas Carreras, par exemple, ou Kiri Tekanawa voilà. Et c'est un mélange de tout ça. Et je pense que beaucoup de gens se retrouvaient là-dedans.
Il a osé, en fait.
Toujours d'actualité.
Et toujours d'actualité. Ah. Il a non seulement osé, mais c'était dans un petit peu dans sa démarche, tout au long de sa carrière, d'un petit peu vulgariser la musique classique et la donner aux gens par ses apparitions à la télé où il montrait un petit peu comment on construit un thème, comment
de on construit ça. Désacraliser, en fait.
Désacraliser, ouais. Vulgariser aussi, c'est pas un mot forcément négatif.
Non, bien sûr.
Donner la possibilité aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller écouter un opéra à l'époque. Les disques, c'était rare.
Bien sûr.
Si on voulait écouter de la musique, il fallait aller se rendre à l'opéra et c'était assez cher.
Et ça coûtait plus cher. Ouais.
Donc, par le biais d'un média comme la télévision ou d'une de ses compositions, il faisait partager ça et ça a été un succès incroyable. Même maintenant, et puis la musique...
La musique est absolument géniale, quoi. Elle est inoubliable, cette musique.
Tout le monde a déjà entendu une fois West Side Story, je pense.
Non.
Et je trouve que c'est en plus bon la comédie, sans parler de la comédie musicale, mais le film lui-même n'a pas perdu.
Il est
moi, je l'ai fait voir à ma petite fille qui avait 15 ans. Je lui ai fait voir l'année dernière.
Il est intemporel.
Elle est restée scotchée devant. Parce qu'il y a tout en fait. Il y a l'histoire. Il y a la danse, il y a la musique, il y a les chorés, l'orchestration, tout
voilà,
est super.
Il est de son époque.
Oui, tout à fait.
À l'époque, les opéras, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire aux opéras, c'est toujours des thèmes un petit peu le dieu contre l'autre dieu, ou alors c'est je t'aime et non, moi je t'aime pas, et voilà. Bon, pour les auditeurs qui n'ont pas compris...
Harakiri, Michael, pour vous expliquer un petit peu, il nous fait des gestes, mais vous ne voyez pas, je sens que c'est pas mal quand même.
Voilà, c'est un petit peu dépoussiéré tout ça, et ça a été un succès
magnifique. Ouais.
Alors, Bernstein a dans sa vie des moments majeurs de l'histoire, et notamment en décembre 1989, à l'occasion du concert en l'honneur de Berlin, donné pendant la destruction du mur de Berlin, il dirige un orchestre formé de musiciens des quatre zones d'occupation. C'est dommage, je ne l'ai pas vu, ce monsieur, à ce moment-là. J'y étais pourtant, mais bon. Ces prises de position publiques plongent parfois dans l'embarras le corps diplomatique américain à l'étranger. Il était, si j'ai bien compris, quelqu'un d'un peu dérangeant par ses attitudes.
Il a eu, son épouse avait invité le président des États-Unis chez eux. Et elle avait eu la très bonne idée d'inviter la responsable des Black Panthers.
Ah oui, ça c'est osé.
Ce qui achetait un immense froid lors de cet entretien.
D'accord.
D'ailleurs, alors, pardon. D'ailleurs, au sujet du concert qui a été fait donc en décembre 89 à l'occasion de
Berlin,
du mur de Berlin.
Exactement. Ouais. Il y a une petite anecdote, c'est il y avait des problèmes d'avion parce que le lendemain l'orchestre devait jouer, je ne sais plus où exactement, et toutes les autorités avaient dit on vous laisse un avion, mais à 1h30. À 1h30, vous pouvez décoller. Jusqu'à 1h30, vous pouvez décoller. Après, c'est plus possible. Donc, tout le monde avait mis en œuvre pour que le concert se termine à ce moment-là. Évidemment, le concert avec Bernstein commence avec une demi-heure de retard. Et on lui a dit, maestro, on ne va pas pouvoir jouer parce qu'il faut qu'on prenne l'avion. Il a dit, l'avion attendra bien. Ils ont fait le concert, ils ont terminé 10 minutes avant 1h30, l'heure de décollage. Bernstein a carrément été voir, alors je ne sais plus le ministre, je ne peux pas vous sortir le nom, pour que les musiciens soient encadrés par la police, pour qu'ils se sont changés dans le bus, enfin c'était quelque chose d'incroyable. Il a tenu à faire le concert, mais il ne fallait pas se presser quand même. Hein.
Voilà.
Les autorités, on verra plus tard.
Chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose. Hein.
Exactement.
Alors pendant l'été 1985, il organise un voyage pour la paix à Hiroshima, pour le 40e anniversaire du bombardement américain. Il choisit l'orchestre des jeunes de la communauté européenne avec la cantatrice Barbara Hendricks et le chœur de la jeunesse de Vienne. Choix des plus symboliques, en effet. Un orchestre européen, une artiste noire et un chœur autrichien. Alors on voit que cet homme est engagé, qu'il mouille la chemise au sens propre comme au sens figuré. Qu'en pensez-vous ?
Ben c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, quoi. C'était un homme qui, lorsqu'il avait des idées dans sa tête, ben voilà, c'était Bernstein.
Un homme de conviction, quoi.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Oui, et puis, encore une fois, il est de son époque, il veut un petit peu briser, dépoussiérer un petit peu tout ça.
Casser les tabous. Hein.
Oui, et puis il arrive plutôt bien, quoi. C'est pour ça qu'on se souvient de lui. Je pense qu'un musicien à cette époque qui venait de se faire diriger par Karajan et puis qui passe derrière avec Bernstein... Mm. Il doit souffler, hein, il va dire enfin, voilà, je vais faire
la musique. Il a marqué son siècle.
Mais oui, il pouvait être une heure à l'avance en répétition, comme deux heures en retard.
D'accord.
Voilà. Et puis,
ça serait super agréable.
Tout à fait.
Mais voilà, c'est
c'était le personnage, quoi.
Voilà, j'ai...
On l'acceptait peut-être, on était tolérant parce que justement, c'était M. Bernstein avec ses avantages.
Mais oui, mais après, c'était quoi. Tellement un bonheur quand il dirige. Il y a des violonistes qui demandent un tempo assez élevé. Et les violonistes, ils commencent un petit peu à galérer. Ils disent non, mais oubliez la partition, vous me regardez dans les yeux, on y va ensemble.
Accroché à sa musique.
Voilà, regardez mes yeux. Et c'est un bonheur, quoi, jouer avec des types comme ça. Donc oui, mousse et chemise.
Allez, on va écouter, si vous voulez bien, un extrait de Tonight, West Side Story, dirigé par Monsieur Bernstein sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes.
Imagine being afraid of you.
You see?
I see you.
Oh, Maria, see only me.
Only you, you're the only thing I see. Forever, in my eyes, in my words, and in everything I do, nothing else but you, ever.
And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria.
Tony, Tony.
Always you, every thought I'll ever know, everywhere I go. You'll be
all the worries of
you and me.
Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say.
Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right.
For here you are, and what was just a word is a start.
Tonight.
tonight. The world is full of light, with suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a word is a star.
Stay. Go quickly.
I'm not afraid.
Please.
Good night.
Buenas noches.
Compositeur prolifique, il est l'auteur de 3 symphonies, 2 opéras, parmi un très grand nombre d'autres œuvres. Mais ce qui caractérise principalement Bernstein, c'est son aisance à passer d'un style à l'autre, du jazz, West Side Story, Wonderful Town, au blues gospel, mass, en passant par certaines pointes de dodécaphonisme que nous a expliqué tout à l'heure Michael, dans ses premières œuvres cependant reniées par la suite. Le style de Bernstein mêle le jazz, la musique populaire, le choral religieux, les songs, l'opéra italien, la pop musique. Et on retrouve dans ses œuvres les influences de Stravinsky, Aron, Copland surtout, Mahler évidemment, et Hindemith. Dans un langage universel et accessible, il parvient à traiter certains grands thèmes, celui de la condition humaine, celui de la foi perdue et reconquise, ce que tu nous disais tout à l'heure, humaniste.
Exactement. Et puis, si on écoute bien les symphonies de Mahler, on parlait de Mahler tout à l'heure, et l'écriture de Bernstein, on trouve plein de similitudes. L'écriture contrapuntique, donc les deux mélodies qui se chevauchent un petit peu, on retrouve l'importance des timbres des instruments, chose qu'on ne faisait pas avant Mahler. On arrive à changer la couleur des instruments. Il jouait beaucoup là-dessus, Bernstein. Une clarinette sonnait un petit peu moins criarde. C'est un petit peu le son des clarinettistes. Je parle de clarinette. Il faut évidemment que je passe la clarinette. Hein. C'est un petit peu le son clair des clarinettistes américains. Il essayait aussi de donner quelque chose de plus rond. Il jouait beaucoup avec les timbres des instruments. Et ça, c'est une des caractéristiques des symphonies de Mahler. Par exemple, dans la première, la symphonie Titan... on retrouve cette couleur, ces pianissimi, toutes ces choses-là. Et Bernstein, d'ailleurs, pour éviter de dire Bernstein, je pense qu'on peut l'appeler Lenny, puisque Lenny, tous les musiciens l'appelaient Lenny.
Ouais, c'est ce que je disais au début, oui.
Quand c'était Karajan.
Maître Lenny.
Voilà. Quand c'était Karajan, il n'appelait pas Karanyu, quoi. Hein. Il ne s'amusait pas.
Non.
Avec Bernstein, il y avait une proximité qu'il pouvait se lâcher. Donc Lenny, on va l'appeler Lenny, a beaucoup joué là-dessus. Et je pense que c'est quand on écoute l'ouverture de Candy qu'on a entendu tout à l'heure ou West Side Story, on a vraiment cette impression. Et écoutez une symphonie de Mahler et de suite après Bernstein, et vous allez voir, ça se ressemble beaucoup.
Ça passe comme une lettre à la poste. Marie, on dit de lui, de Bernstein, de Lenny, c'est ça,
hein,
qu'il était pédagogue. Pourquoi ?
Oui, il était pédagogue. De 1958 à 73, il présente à la télévision les Young People Concerts pour les jeunes et Omnibus pour les adultes, émissions au cours desquelles il démontre toutes ses qualités de pédagogue auprès des enfants qui découvrent la musique classique de manière ludique. Il leur a montré la voix à Jean-François Gisel. Il s'est énormément investi dans la pédagogie de la musique avec des émissions télévisées qui ont fait le tour du monde. Moi, j'ai des souvenirs, petite fille, où je regardais ces émissions, j'étais subjuguée. C'est ainsi qu'avec Omnibus, plus de 16 millions de personnes sont devant leur poste lors de son émission sur la direction d'orchestre que Bernstein a particulièrement travaillé. Alors, 16 millions.
Quand même, ouais, ça représente... Surtout pour du classique.
Oui.
Michael, c'est quoi pour vous être pédagogue en tant que chef d'orchestre ? C'est un bien grand mot, la pédagogie.
Ben, on écoute ce qu'a dit Marie, et puis voilà, c'est exactement ce qu'a fait Bernstein. Il l'a fait partager, je crois que c'est un des premiers qui a fait des concerts pour les scolaires. Voilà, il fallait juste y penser, maintenant ça devient naturel, l'Orchestre de Lyon le fait souvent, mais Bernstein l'a fait, et en plus il faisait venir la télé, il diffusait ça au plus grand nombre. La pédagogie, c'est aussi transmettre son savoir par la passion. Non pas par la dictature
la passion et l'humilité.
Fermée, oui, tout à fait.
Ce côté conservateur qu'on peut avoir dans la musique classique et qui existe toujours un petit peu. Bernstein a compris il y a 50 ans que exactement. Bernstein a compris il y a 50 ans que ça fonctionne plus. C'est pas la musique. On veut être un petit peu élitiste tout ça, mais c'est la faire partager. Et je pense que plein de gens. Énormément de gens ont découvert la musique classique par Bernstein.
Bernstein, c'est un peu ce que Nourrieff ou Béjart a été pour la danse classique. Non ?
Plus Béjart, peut-être.
Béjart, parce que Nourrieff, c'était quelqu'un de très... c'était lui. C'était lui, quoi. Il a quand même foutu une gifle à une danseuse à la Scala de Milan qui avait chuté.
Nourrieff, c'était plus le génie, peut-être.
Le ferait pas, quoi. Voilà, il irait pas prendre son bâton.
Mais Béjart, dans sa modernité, dans son approche des choses. Enfin,
j'ai le souvenir du visage des enfants quand ils écoutaient Bernstein dans ses émissions.
Bien sûr,
quoi.
Ils rigolaient.
Et puis ils étaient attentifs, quoi. Et quand ils se retournaient pour expliquer, tout le monde était attentif, quoi. Alors, c'était magique.
Quand il propose de rentrer un petit peu plus dans une œuvre, il hésite même pas. Il n'y a qu'à aller sur YouTube, hein, vous le verrez, je fais de la pub. Hein, je sais pas si on a le droit. YouTube ou Dailymotion, bien entendu. Il n'hésite pas à jouer un air de rock, un air de blues. Pour lui, la musique est large, elle est diverse, les esthétiques sont différentes. Il expliquait sa musique, la musique, on a besoin d'un petit peu plus d'initiation pour la comprendre, pour entrer dans une œuvre. Mais il pouvait partir dans le rock, et pour un enfant, même pour un adulte, hein, les gens qui n'avaient jamais écouté ça,
voilà, puis c'est vrai que ça peut leur parler, pour leur.
Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît maintenant avec Jean-François Ziguel, qui fait ça, il est passé il n'y a pas longtemps à Lyon d'ailleurs, qui fait ça très bien, et c'est un bonheur de découvrir ça, pour les jeunes.
Bien sûr.
Donc la pédagogie en tant que chef d'orchestre, c'est évidemment très important. Si, sans la pédagogie, on tombe dans la dictature. Le mot était peut-être un petit peu fort, mais c'est ça.
C'est pas loin des fois.
J'impose ma vision. Pourquoi vous n'avez pas le savoir. Voilà, c'est comme
c'est
ça.
Comme ça
voilà, c'est ça, je crois, surtout. C'est dire, vous n'avez pas à savoir, vous le faites comme ça, parce que moi, je le veux comme ça.
Vous êtes des exécutants, lui, il voyait le côté, l'aspect humain de l'orchestre, même si c'est une entité assez volumineuse et puis assez forte, il n'hésitait pas à discuter sur le phrasé, sur les coups d'archet, sur tout ça. Et voilà, que ce soit les musiciens, les auditeurs, les spectateurs, tout le monde a appris de Bernstein.
C'était quelqu'un qui pouvait entendre des critiques, au contraire d'un von Karajan, j'imagine.
Non, ouais, c'est, ouais. Oui, je ne sais pas s'il écoutait les critiques, mais je pense qu'il
pouvait
les enregistrer.
Qu'il pouvait les entendre.
Il les enregistrait.
Il est capable de les accepter et de les entendre et de, voilà, de mais que ça mature. Quoi.
En même temps, question critique, est-ce que vous voulez critiquer Bernstein, enfin, c'est...
Voilà, j'imagine qu'entre eux, il y avait quand même...
Il n'y a qu'à voir le célèbre, la célèbre fois...
Entre Bernstein et Karajan.
Oui, entre ses chefs, ses grands chefs.
Bernstein n'aimait pas Karajan pour son passé nazi.
Oui, ça c'est autre chose.
Oui, voilà. Oui, après,
c'est
beaucoup plus profond que ça.
Voilà.
Ouais. Mais il n'y a qu'à voir, par exemple, la scène où, dans l'enregistrement de West Side Story, où il se prend le bec un petit peu avec Carreras.
Avec Carreras.
Voilà, ça a très peu d'importance pour lui. Il dit, bon, oui, voilà, il est en colère. Bon,
une fausse note.
J'ai ramené de main. Hein, voilà.
Alors, parlons de sa vie un petit peu. Il est quasiment mourant à Tanglewood quand le 19 août 1990, il dirige ce qui va être son dernier concert. Il peut à peine respirer, laisse ses bras à mi-hauteur du corps dans l'incapacité de les lever plus haut, mais il refuse de déclarer forfait. Pourquoi ?
Parce que pour lui, il a le devoir de diriger le concert à la mémoire de son vieux maître Koussevitzky.
Alors, c'était qui ce monsieur, Marie ?
Alors, Koussevitzky, c'était un chef d'orchestre russe qui était naturalisé américain. Et il doit sa grande notoriété à sa direction prestigieuse de l'Orchestre symphonique de Boston durant 25 ans. Mais surtout, son nom reste célèbre pour avoir été le mécène de nombreux jeunes compositeurs. C'est lui qui a inspiré à Maurice Ravel la célèbre orchestration des tableaux d'une exposition de Moussorgski. Je pense que c'est vraiment une orchestration qui a été vraiment magnifique, quoi. Donc c'était quelqu'un de très très important, oui.
Alors une autre initiative heureuse prise par Koussevitzky, décidément, fut la fondation en 1940 du Tanglewood Music Center, destiné à développer la vie musicale américaine dans les domaines de l'enseignement, de la création et de l'interprétation, y compris la direction d'orchestre. Seiji Ozawa en 1960 et Michael Tilson Thomas en 1969 furent deux lauréats fameux.
Mm. C'est vrai que ce sont deux grands lauréats. Les forces de Bernstein l'abandonnent pendant l'allegretto du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven. Et lors du troisième, une quinte de toux le force à s'accrocher aux pupitres sous le regard effaré des musiciens qui continuent de jouer. Bernstein réussit péniblement à reprendre son souffle et à diriger des yeux le dernier mouvement. 4 jours avant son décès, il annonce la suspension provisoire de ses concerts et évoque ses projets pour 1991, mais il décède le 14 octobre 90 des suites d'un cancer du poumon.
Nous allons écouter donc Bernstein au piano dans Rhapsody in Blue de Gershwin.
Thank you.
Les années new-yorkaises trahissent une attraction certaine pour les hommes. Un de ses biographes évoque les lettres passionnées à Aaron Copland. Et c'est dans cet état d'esprit très troublé qu'en 1946, Bernstein tombe amoureux de Felicia. C'est une actrice dont il admire le talent.
Après le décès de Felicia en 1978, des suites d'un cancer, Bernstein est persuadé que les souffrances qu'il a infligées à Felicia par ses liaisons répétées sont à l'origine de sa maladie. Et il aura toujours un sentiment aigu de responsabilité qui ne le quittera jamais.
Alors Marie, la petite phrase pour conclure l'émission.
Alors c'est Bernstein qui a écrit dans son ouvrage Le partage de la musique. Il a écrit « Je cherchais la musique et quand je l'ai trouvée, je m'en suis épris au premier regard et lui ai dit « Tu seras mienne à jamais ».
C'est beau.
C'est très très beau.
Alors nous voilà arrivés au terme de cette émission. Michael, une petite fin sur Bernstein.
Donc oui, si on veut conclure sur Bernstein, on peut dire qu'il voulait faire comprendre la musique au plus grand nombre de personnes, initiées ou non initiées. Et je pense qu'il a réussi sa mission.
Tout à fait. J'espère qu'on a réussi la nôtre en vous faisant comprendre un petit peu qui était Bernstein au travers de cette émission. Je vous remercie en tous les cas, tous les deux, d'avoir apporté autant d'informations sur ce sujet. Ça donnait un petit peu plus de punch à cette émission. Merci en tous les cas. Je ne doute pas que cette émission aura permis à chacun d'en apprendre un peu plus sur ce grand monsieur qu'était Leonard Bernstein. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes. On termine cette émission par l'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, encore une fois dirigée par Leonard Bernstein. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir à tous.